Chers amis auditeurs, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver pour essayer d'entrer toujours davantage dans ce livre de l'Apocalypse, écrit par Saint Jean, je vous rappelle. Alors, nous sommes déjà au chapitre 4. Chapitre 1, vision du Christ glorieux. Chapitre 2 et 3, reproche aux sept églises. Et chapitre 4, donc, on avait vu la dernière fois un trône avec quelqu'un qui est assis sur ce trône. Celui qui est assis sur le trône, c'était le Père, n'est-ce pas? Ensuite, autour de ce trône, il y avait l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est donc le Père qui fait alliance. Il fait alliance avec qui? Avec les 24 vivants. Donc, là, on avait vu les 12 tribus d'Israël plus les 12 apôtres. Et je vous rappelle que la seule alliance que Dieu a fait avec les hommes, c'est l'alliance avec les Juifs, puis l'alliance avec les chrétiens. Il n'y a pas de révélation directement de Dieu à d'autres personnes que les Juifs et les chrétiens. Donc, ensuite, on avait vu donc... Que du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. C'est la présence de l'Esprit Saint, qui est la présence de l'Esprit Saint qui est à travers des éclairs, des voix, des tonnerres. De temps en temps, des voix, des tonnerres, tout ça, ça fait penser un petit peu à la Pentecôte aussi. C'est un petit peu remuant, Et devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Donc on a ces deux symbolismes qui sont là pour essayer de comprendre qui est l'Esprit Saint, les éclairs, les voix, les tonnerres, et puis les sept lampes de feu. Ensuite, devant le trône, c'est comme une mer semblable à du cristal. Donc, on a une mer de cristal qui est là devant le trône. Pour le moment, il est vrai qu'on est en stand-by, on attend, on met un point d'interrogation et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut comprendre cette mer de cristal. Et cette mer de cristal, je vous rappelle qu'elle est donc après l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous est présenté dans les éclairs, les voies étonnées et cette lampe de feu. Après l'Esprit Saint, c'est la mer de cristal, et après la mer de cristal, c'est le Christ qui est présent dans son mystère d'incarnation. C'est pas le Fils de Dieu qui est dans la Trinité, c'est le Fils de Dieu en tant qu'il s'est fait chair, qu'il est venu sur terre, qu'il s'est incarné. Au milieu du trône et tout autour du trône, quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Alors, tout d'abord, on voit déjà quatre êtres vivants. Donc, on va réfléchir sur ce chiffre 4. Dans la symbolique des chiffres, habituellement, parce que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est très symbolique. Et il faut comprendre que du côté des symbolismes, un même symbolisme peut avoir une signification opposée. Alors ça devient compliqué, n'est-ce pas? Mais je vais vous expliquer, comme d'habitude. Vous avez quelquefois un symbolisme, ce symbolisme peut avoir une signification qui est une signification opposée. Je m'explique. Vous avez par exemple l'eau, la mer. La mer, c'est à la fois la mort et c'est à la fois la vie. L'eau est source de vie, comme l'eau peut symboliser la mort. Le passage de la mer Rouge, c'est la mort des Égyptiens. Et l'eau, c'est habituellement l'eau qui donne la vie. Et donc l'eau peut symboliser à la fois la mort ou à la fois la vie. Je prends même un symbolisme encore un petit peu, parce que je crois que ce sera un petit peu important pour nous un peu plus tard. C'est dans les Écritures, quand vous regardez le symbolisme du serpent. Le serpent, il est clair que si on vous demande maintenant à brûle-pourpoint comme ça de réfléchir sur le serpent, vous direz que le symbolisme du serpent, c'est le diable. Et vous avez raison. On en parle déjà dans Genèse au chapitre 3, le serpent qui va tromper Ève. Puisqu'on est dans l'Apocalypse, je me permets aussi de vous lire un passage de l'Apocalypse chapitre 12, où on nous dit à partir du verset 7, « Il y eut une guerre dans le ciel ». Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Le dragon, je vous rappelle qu'il a sept têtes, c'est lui qu'on appelle le diable. Et le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Et donc, on voit que le dragon, Satan, c'est bien le serpent ancien, le serpent qui a trompé Ève et qui est Satan. Mais le serpent symbolise aussi la victoire. Premièrement, c'est dans Nombre chapitre 21, le verset 9. Je vous rappelle qu'il y a le peuple d'Israël qui est dans le désert. Dans le désert, ils ne moissonnent pas, ils ne récoltent pas, ils ne sèment pas et ils n'ont pas à manger. Enfin, ils ont à manger, mais ce n'est pas eux qui préparent leur nourriture. C'est Dieu qui leur donne une nourriture gratuitement du ciel. Et Dieu fait tomber la manne chaque jour. Dans le désert pour que le peuple d'Israël puisse manger. C'est au moins 300 000 personnes que Dieu nourrit comme ça tous les jours pendant 40 ans, gratuitement. Et au bout d'un moment, le peuple d'Israël dans le désert va commencer à se plaindre et à murmurer. Et une délégation courageuse va aller voir Moïse pour dire à Moïse, « Moïse, comme tu vois là, dans le désert, la manne chaque jour, là, ça commence à devenir fatigant. » Lundi la manne, mardi la manne, mercredi la manne, une semaine la manne, un mois la manne, une année la manne, deux, trois ans la manne, la manne, la manne, la manne chaque jour. Dit, on en a déjà marre. Donc Moïse, comme tu es souvent en contact avec Dieu, dis à Dieu que de temps en temps, bien, il nous fasse un steak frites ou je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Et donc il y a cette délégation qui va voir Moïse pour dire à Moïse que dis à Dieu quand même qu'il nous donne un peu de viande et qu'il varie un peu ses repas. Et alors lorsque Moïse rentre en contact avec Dieu, il dit que Dieu, comme tu vois, il y a quand même une délégation qui est venue me voir, là, ils disent que vraiment, si tu pouvais faire un effort, ce serait une bonne chose. Et Dieu va répondre à Moïse, il dit que, Moïse, comme tu vois, ce peuple-là, je le nourris gratuitement chaque jour. Je ne lui demande rien. Et il ne peut même pas me dire merci. Ils vont avoir. Je vais leur envoyer des serpents. Et Dieu, donc, envoie des serpents dans le désert. Et les serpents, c'est pas pour les manger. Nous, au Cameroun, on mange des serpents. C'est pas mauvais, d'ailleurs. C'est pas pour les manger. Les serpents, c'est, ils vont commencer à piquer les membres du peuple d'Israël, et ils vont commencer à mourir les uns après les autres. Et maintenant que les serpents commencent à tuer les membres du peuple d'Israël, la délégation retourne vers Moïse pour dire à Moïse, « Moïse, comme tu vois là, vraiment c'est mauvais. Hein. Et tu peux dire à Dieu que la manne c'est très bon, qu'il n'y a pas de problème, et il peut déjà enlever les serpents. » Et lorsque Moïse se retrouve en relation avec Dieu, il dit que Dieu, tu es fort, tu as réussi, ils ont compris. Maintenant, ils disent que tu peux déjà enlever les serpents, ils te disent merci pour la manne. Et Dieu dit, je n'enlèverai pas les serpents. Par contre, toi, Moïse, ce que tu vas faire un serpent en airain que tu mettras sur le haut d'une lance. Et tous ceux qui seront piqués par les serpents dans le désert devront regarder le serpent d'airain pour être sauvés. Et ce serpent d'airain est un serpent qui est là et qui est positif et qui sauve. Et dans Jean chapitre 3 au verset 14, après la discussion avec Nicodème, il y a un passage où il est dit, Jean 3, 14, je vous lis, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et on voit bien comment on va faire un lien entre le serpent et le Christ. Et le serpent va symboliser à la fois le diable, et le serpent va symboliser en même temps Jésus. Et donc, le symbolisme du serpent peut être à la fois un symbolisme qui a une signification qui sont opposées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la mer. Et c'est important, je crois, pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Maintenant, non seulement les symbolismes sont importants, mais il y a aussi les chiffres qui sont importants. Par exemple, on verra si on a le temps dans Apocalypse chapitre 12 et 13. Apocalypse chapitre 12 et 13, si vous n'avez jamais lu, il faut lire. Hein. Quand l'émission sera finie, n'hésitez pas à continuer dans votre Bible à prendre Apocalypse 12 et 13. C'est le passage de l'Apocalypse le plus connu. C'est là où on voit une femme enveloppée du soleil, une couronne de 12 étoiles sur la tête, et face à elle, le dragon rouge feu. Et dans Apocalypse chapitre 13, le dragon rouge feu qui est le diable donne son pouvoir à la bête de la mer et à la bête de la terre. Et au chapitre 13, le dernier verset, le verset 18, on dit que le chiffre de la bête, c'est le chiffre 666. Hein, c'est un chiffre qui est de plus en plus connu aujourd'hui. Hein, beaucoup de gens y font allusion. Et dès qu'on voit un chiffre 666 quelque part, on commence à se dire que forcément, c'est le diable, c'est le diable. Hein, un jour, il y a dans une famille, un enfant qui s'est amusé avec le téléphone de son père et qui, comme par hasard, a appuyé trois fois sur la touche 6. On s'est demandé si c'était pas le diable. Là, c'est le hasard, vous comprenez, il faut pas vous inquiéter. Et c'est pas... Moi, dans mon numéro de téléphone au Cameroun, j'ai trois fois le chiffre 6 qui se suit. Puis un numéro dans lequel il y a 666. Bon, ben, ça veut pas dire que je suis le diable, j'espère que les choses sont claires. Alors, et le symbolisme donc de Apocalypse 13, 18 sur le chiffre 666, qu'on verra lorsqu'on étudiera donc Apocalypse 12 et 13. Mais la symbolique des chiffres, habituellement, le chiffre 1 est un chiffre qui pour nous représente Dieu, parce qu'il y a un seul Dieu. Le chiffre 2, habituellement, c'est la présence de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité, et en lui, il y a deux natures, la nature divine et la nature humaine. On a vu dans Apocalypse 4, dans le trône, c'est Dieu, autour du trône, c'est l'homme. Et celui qui a deux natures, c'est bien Jésus. Le chiffre 3 représente habituellement la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le chiffre 4 représente l'homme. Pourquoi 4? Parce que dans l'homme, il y a quatre dimensions. Il y a la hauteur, la largeur, l'épaisseur, plus la vie spirituelle. Et c'est pour ça que le chiffre 4, donc, est un chiffre qui est attribué à l'homme. Le chiffre 5, je ne sais pas. Je cherche toujours jusqu'à aujourd'hui. Si quelqu'un est inspiré, bien, il faudra qu'il me dise. Le chiffre 5, ça me fait penser, moi, à Jésus-Christ qui discute avec la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Et il dit à la Samaritaine, va chercher ton mari. Il a dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as raison, tu as eu 5. Alors, est-ce que le chiffre 5 est lié au côté sensible aussi, puisqu'on a 5 sens? Est-ce que c'est lié à... Je ne sais pas. En tout cas, le chiffre 5, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qu'il faut mettre derrière. Chiffre 6, c'est l'apparition de l'homme et de la femme sur la terre le sixième jour. Et c'est lié pour moi au bonheur terrestre. Il y a un bonheur terrestre qui n'est pas mauvais. Mais le bonheur terrestre n'est jamais notre finalité. Le bonheur terrestre, qui est le chiffre 6, c'est avoir une jolie femme, une jolie maison, un bon travail, une santé qui va, tout ça. Et c'est pas mauvais. Mais le chiffre 6, il faut qu'on arrive au chiffre 7 pour avoir le véritable bonheur, qui est le bonheur divin. Et c'est pour ça qu'il y a le septième jour qui est béni par Dieu. Et donc, au chiffre 6, ton bonheur humain, il faut ajouter 1 pour obtenir 7, qui est la plénitude du bonheur. Et 1, on a vu que c'est quoi ? C'est Dieu. Lorsque dans ton bonheur terrestre, tu ajoutes en plus Dieu, tu as 6 plus 1, te donne bien 7, qui est le véritable bonheur. En plus, 7, c'est aussi 3, on a vu que c'est la Trinité. Quand la Trinité est unie à l'homme et l'homme, on a vu que ce symbolisme, c'est 4, 3 plus 4, ça donne bien 7. Donc, lorsque l'homme est uni à la Trinité, on trouve bien encore le chiffre 7, qui est le chiffre du bonheur et de la plénitude. Le chiffre 666 d'Apocalypse 13, 18, c'est le chiffre 6 trois fois. Pourquoi trois fois ? Parce que le chiffre 3 représente la Trinité et le diable veut te faire croire qu'il est Dieu. Le dragon rouge-feu d'Apocalypse 12 donne son pouvoir à la bête de la mer et la bête de la terre. Pourquoi ? Parce que le dragon rouge-feu, ça fait 1, la bête de la mer, ça fait 2, la bête de la terre, ça fait 3. Et donc, le dragon rouge-feu, bête de la terre, bête de la mer, c'est l'anti-trinité, avec l'anti-père, l'anti-fils et l'anti-esprit-saint. Le chiffre 6 est donné 3 fois, parce que par le fait de faire 3 fois, il veut montrer que c'est lui qui est Dieu. Et tous les satanistes, tous ces gens qui ont accepté de mettre le diable à la première place dans leur vie, sont des gens qui considèrent le diable comme leur Dieu. Et j'en profite pour vous dire que à partir du moment où tu, dans ta vie, tu acceptes de mettre le diable à la première place. Moi, j'ai rencontré dans ma vie une fois un homme qui a violé toutes ses filles dès qu'elles avaient l'âge de 14 ans. Eh bien, il est clair que cet homme qui violait toutes ses filles à l'âge de 14 ans ne faisait pas ça pour faire plaisir à Dieu. Il faisait ça parce que justement, il avait fait un pacte avec les forces du mal et le diable. Et de même qu'il faut montrer au diable que je suis avec toi, eh bien, de même, le chrétien doit montrer par ses actes qu'il est avec Dieu. Jacques chapitre 2, verset 14 à 19. Tu as la foi, où sont tes œuvres ? La foi sans les œuvres est morte. Et il y a des actes chrétiens qui montrent que j'appartiens au Christ. Il y a des actes diaboliques qui montrent que j'appartiens au diable. Et dévierger ses filles à l'âge de 14 ans, c'est clair que c'est pas divin. Et c'est pas de Dieu, et ça vient forcément du diable. Et donc, c'est pour ça que celui qui est avec le diable doit montrer par les actes que je suis d'accord, j'ai fait mon pacte, je veux ce que le diable va me donner, et en contrepartie, moi, j'accepte de montrer au diable que je suis dans son camp en posant des actes diaboliques. Alors, 666, c'est trois fois le chiffre 6, parce que 3, c'est la Trinité, c'est pour faire croire que c'est lui, Satan, qui est Dieu. Et le chiffre 6, c'est parce que le véritable bonheur pour nous, c'est 7. Et à ce bonheur 7, qui est le bonheur divin, le jour que Dieu a sanctifié et béni, eh bien, ce bonheur 7 qui est donné à chacun des hommes de la terre, qui est proposé, il veut enlever un, et enlever un, c'est enlever Dieu. Et lorsque j'enlève Dieu de ta vie divine, je veux te faire arriver au chiffre 6, et le chiffre 6, c'est te faire croire que le seul véritable bonheur pour toi, c'est de vivre cette dimension ou le chiffre 6 qui nous ramène à l'apparition de l'homme et de la femme sur terre. Et la seule chose que je cherche, c'est mon bonheur, ma réussite, le plan social, avoir une vie de société dans laquelle je suis reconnu pour être quelqu'un d'important, avoir de l'argent et toutes ces choses-là. Donc, voilà comment, à mon avis, on peut interpréter le chiffre 666. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, je suis dans Apocalypse chapitre 4, c'est que au milieu du trône et tout autour du trône, au milieu du trône, c'est Dieu. Autour du trône, c'est l'homme. Quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Et quatre êtres vivants, le chiffre 4, je vous ai dit que le chiffre 4 est lié à l'homme. Et c'est pour ça qu'on est bien là, dans un symbolisme qui est lié à la terre. Et c'est bien le Christ dans son mystère d'incarnation. La dimension 4, c'est la dimension de l'homme. Mais pour montrer que c'est pas seulement l'homme, on montre que ces êtres vivants ont des yeux devant et derrière. Ils ont des yeux partout. Et avoir des yeux partout, c'est pour montrer que c'est quelqu'un qui a toute la connaissance. Il a à la fois toute la connaissance comme Dieu, mais dimension 4, la dimension de l'homme. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le lion, c'est le roi de la tribu de Juda. C'est le roi. Et le lion, c'est pour montrer que Jésus-Christ, en tant qu'il est venu sur terre, il est vraiment lion. Il est de race royale, il est de sang royal. Et nous qui sommes chrétiens baptisés en Jésus-Christ, nous avons aussi cette dignité que personne ne pourra nous enlever. Moi, j'ai un sang dans mes veines qui coule, qui est un sang de breton, parce que mon père est breton et ma mère est bretonne. Mais depuis que j'ai été baptisé, le sang qui coule dans mes veines, j'ai envie de dire, a quelque chose de divin. Je suis maintenant de race royale. Je suis lion. Et il y a une dimension de lion dans la vie de chaque chrétien. Et nous ne devons jamais oublier ça. Nous avons été rachetés dans le sang de Jésus-Christ. Et nous sommes devenus un peuple racheté, un peuple choisi, un peuple élu. Et il y a une dimension en nous qui fait que nous avons une noblesse grâce à cette nouvelle naissance qui nous a été donnée et ce salut qui nous est proposé par la croix de Jésus-Christ. Donc il y a une dimension de lion en chacun d'entre nous. Le deuxième être vivant est semblable à un veau ou un taureau. Le veau, le taureau faisaient partie des sacrifices qu'on faisait dans l'ancienne alliance. Et en tant que tu es chrétien, le Christ lui-même a eu sa part de souffrance. Et toi-même, tu auras aussi ta part de souffrance. Il n'y a pas de vie chrétienne, même si on est de sang royal ou de race royale, il y a aussi la présence de la croix qui est là. Et chacun d'entre nous, il y a une dimension de sacrifice qui fait partie de notre vie. Et c'est important que chacun d'entre nous, on puisse dans notre vie chrétienne, si on ne le fait pas chaque jour, au moins chaque vendredi, faire même une petite pénitence volontaire pour montrer que nous savons que tant que nous sommes sur terre, eh bien, nous ne sommes pas dans un lieu où nous serons pleinement heureux et épanouis. Et notre bonheur, ce n'est pas premièrement la terre. Et c'est pour ça que chaque vendredi, il est bon que chacun d'entre nous puisse faire un effort. Pas seulement manger du poisson au lieu de la viande, mais faire un effort réel dans ta vie. Et si tu peux faire un effort sur la télévision, si tu peux faire un effort sur je ne sais pas moi, quels sont l'effort que tu peux faire. Tu demandes simplement à Dieu qui t'éclaire et chaque vendredi, faire un petit effort pour montrer à Dieu que oui, c'est un jour qui n'est pas comme les autres, c'est le jour où tu es mort. Et il y a cette dimension de taureau ou de veau dans ma vie qui est là présente et j'accepte moi-même de faire des petits efforts. Le jeûne, je vous rappelle pour ceux qui sont intéressés, c'est Isaïe chapitre 58. Il y a tout un chapitre sur le jeûne. Il est bon de pouvoir jeûner de temps en temps. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et comme un visage d'homme, alors, pour moi c'est important, ça montre que Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il est aussi homme. Et même si tu es chrétien, il y a une dimension en toi qui est une dimension humaine. Hein, c'est important que l'homme puisse savoir que tant qu'il est sur terre, il n'est pas comme un ange. On n'a pas à vivre comme des anges, nous devons vivre comme des hommes. Et vivre comme des hommes, ça veut dire que si plutôt que de dormir par terre, tu peux dormir dans un lit, dors dans un lit. Si dans ton lit où tu peux dormir, tu peux avoir une couverture si tu as froid, mets ta couverture. Si tu peux te faire plaisir de temps en temps, fais-toi plaisir. Notre vie sur terre est déjà tellement difficile. C'est déjà, il y a des gens parmi nous qui souffrent et qui ont une vie qui est même compliquée. Nous, les religieux, on a accepté même de vivre sans femme, sans enfant. On a quitté sa famille, on a quitté son pays. Mais si au moins on peut de temps en temps se faire plaisir, qu'on n'hésite pas. Moi, j'essaye, quand je suis au Cameroun, dans mon programme, de me trouver 3 journées pendant lesquelles je réserve 2 heures pour jouer au tennis. Parce que j'aime bien le tennis. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport, j'ai beaucoup joué au foot dans ma vie. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis un peu vieux, c'est un peu plus compliqué. Et puis quand tu veux jouer au foot aujourd'hui, bien, trouver 11 joueurs pour jouer avec toi, c'est pas simple. Tandis que là, tu prends ta raquette de tennis, tes balles de tennis, tu vas sur un terrain de tennis, et puis tu as quelqu'un qui te renvoie les balles, il faut une seule personne qui joue avec toi, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Et donc, et en plus, si la balle va trop vite, tu la laisses passer, c'est pas grave, c'est pas ça qui te fait vivre aujourd'hui. On n'est pas Nadal ou Federer pour gagner des millions, des milliards. Donc, et si je peux me faire plaisir de temps en temps, je me fais plaisir. Moi, je sais que dans ma communauté à Yaoundé, je suis un des seuls frères qui traverse la route parce que de l'autre côté de notre couvent, de notre prieuré, il y a un bar. Et comme dans le frigo de chez les frères, il n'y a pas de bière, et que moi, de temps en temps, j'aime prendre une bière, surtout dans un pays où il fait chaud, eh bien, quand ça me pique, je traverse la route, je vais là-bas et je prends une bonne bière. Et si tu peux prendre une bière de temps en temps, mais n'hésite pas. Et il faut savoir se faire plaisir. Si vous avez un peu d'argent et que vous pouvez prendre des vacances de temps en temps, prenez des vacances. Il faut savoir que nous sommes des êtres humains. Et comme être humain, eh bien, être un être humain, c'est Jésus-Christ, un premier miracle qu'il a fait, c'est les noces de Cana. Il a transformé l'eau en vin. Et je suis persuadé qu'aux noces de Cana, Jésus-Christ a dansé. Il devait avoir des piches terribles. Ça aurait été magnifique si on avait pu avoir une vidéo de Jésus-Christ qui dansait aux noces de Cana. Et il a transformé l'eau en vin. Alors maintenant, il faut pas abuser du vin. Il faut pas devenir ivre, on est d'accord. Mais si un jour tu veux faire un repas avec un bon petit vin, si ça te fait plaisir, ben fais-toi plaisir. Il y a une dimension humaine Dans le Christ, le Christ est venu sur terre, il a cette dimension humaine, et cette dimension humaine n'est pas à rejeter. C'est notre dimension et nous devons l'accepter et la vivre le mieux possible. Maintenant, quatrièmement, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Donc, c'est la dimension de Jésus-Christ comme fils de Dieu, qui est le contemplatif qui regarde tout par en haut. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons accepter de pouvoir regarder tout ce que nous faisons avec un regard qui est un regard de Dieu. Il faut que, dans notre dimension de chrétien, nous puissions assimiler, eh bien, ce baptême du Saint-Esprit. Dans Matthieu 3, 11, il est dit, moi, je vous baptise dans l'eau. C'est Jean-Baptiste qui plonge les gens dans l'eau. Et Jésus-Christ dit, moi, je vous baptise, je vous plonge dans l'Esprit-Saint. Hein? J'en profite pour vous dire que toutes les églises baptistes qui vous disent que le seul véritable baptême, c'est le baptême par immersion totale dans l'eau, sont des églises qui sont dans l'erreur. Et Matthieu 3, 11 est clair. Le baptême dans l'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Et le baptême de Jean-Baptiste a donné la vie divine à personne, parce que Jean-Baptiste n'est pas le sauveur. Nous ne sommes pas des Jean-Baptistiens, nous sommes des chrétiens. Et le chrétien, c'est celui qui vit du baptême du Christ. Et le baptême du Christ, c'est le plongeon dans l'Esprit-Saint. Et c'est l'Esprit-Saint qui vient nous éclairer. Et l'Esprit-Saint vient nous éclairer, comme on le voit ici dans l'Apocalypse, à travers ces sept esprits. Et les sept dons du Saint-Esprit doivent m'éclairer. Et je dois accepter maintenant de regarder ma vie avec le don de sagesse. Il y a une sagesse dans le chrétien qui lui est donnée directement par Dieu. Et je crois que ce don de sagesse va se manifester premièrement dans deux dimensions de ma vie, qui est le regard par rapport à la mort et le regard par rapport à la croix. Un petit peu comme on a vu quand on a vu les deux premières églises d'Apocalypse chapitre 2, l'église d'Éphèse et l'église de Smyrne. L'église de Smyrne ne craint pas ce que tu vas souffrir. Et il faut que chacun d'entre nous, nous ayons un regard maintenant qui soit un regard qui vienne d'en haut. Je ne peux pas regarder la terre uniquement en tant que je suis un homme. J'ai une dimension nouvelle qui m'est donnée qui fait que je deviens l'aigle en plein vol. Et je dois avoir un regard sur ma vie qui soit un regard qui vient d'en haut. Et comprendre que si je suis sur terre, je suis sur terre uniquement pour quelques années. Et après, je vais partir. Je vous rappelle que normalement, pour moi, un chrétien n'a pas peur de la mort. Une chose qui est sûre, c'est que la mort va nous frapper chacun d'entre nous. Et un jour, tu vas mourir, un jour, je vais mourir. Et personne d'entre nous ne va y échapper. On parle des Saintes Écritures, on vous a parlé des évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Eh bien, aujourd'hui, Matthieu est mort, Marc est mort, Luc est mort et Jean est mort. Et si on prend tous les personnages bibliques, ils sont tous morts. Et si on prend les gens qui étaient là avant nous, nos grands-pères, arrière-grands-pères, tout ça, la plupart, ils sont déjà partis. Et un jour, nous aussi, on va partir. Et il faut que, humainement parlant, nous ayons un regard sur la mort qui soit un regard qui soit conforme à ce que Dieu veut. C'est l'aigle en plein vol. Sans arrêt, nous devons accepter d'avoir cette dimension qui fait qu'on ne peut pas vivre humainement sur terre uniquement avec nos petites convictions. Il faut que ce soit la sagesse de Dieu qui vient nous montrer la réalité vraie pour nous qui sommes chrétiens. Et donc, par rapport à la croix, je vous rappelle que la croix du Christ n'est pas une croix qui tue, mais une croix qui donne la vie. Et quelle que soit notre croix, comme chrétien, nous ne sommes jamais découragés par une croix. La croix ne peut pas décourager un chrétien. La croix est un obstacle, la croix est une difficulté, c'est vrai. Mais cette difficulté, cet obstacle, nous devons en être vainqueurs comme le Christ en a été vainqueur. Et c'est pour ça que c'est important que je sois un homme et que je vive ma dimension humaine, en sachant que je suis un homme qui a reçu la grâce de Dieu, et avec la vie divine, je suis devenu fils de Dieu, et je regarde tout comme le fils de Dieu, en regardant tout par en haut. Donc, on voit comment au milieu du trône, c'est Dieu, et autour du trône, c'est l'homme. Il y a quatre dimensions en lui, dont on peut dire chacun des évangélistes va donner une dimension sur Jésus. Hein, et il y a des yeux partout. Hein. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Quatre vivants, c'est la dimension de l'homme. Six, c'est le bonheur terrestre, l'arrivée de l'homme sur terre. Avec des yeux sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Une deuxième fois pour nous montrer que c'est quelqu'un qui a toute la connaissance et à la fois Dieu et il est homme. Ensuite, maintenant, je suis au verset 9. « Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetteront leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Et j'ai l'impression là que dans Apocalypse chapitre 4, nous avons l'acte d'adoration de tous ceux qui ont été fidèles à Dieu dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Et ils se prosternent devant Dieu. Et ce qui est joli, c'est qu'il se prosterne devant Dieu, j'ai envie de dire, à la suite des êtres vivants. Quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, les 24 anciens se prosterneront. Et c'est comme Jésus-Christ, dans son mystère d'incarnation, qui vient nous apprendre à prier. Rappelez-vous la question que les apôtres posent à Jésus. Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses apôtres. Et c'est Jésus-Christ qui va nous introduire dans la véritable prière. Et c'est pour ça que c'est Jésus-Christ dans son mystère d'incarnation qui, en tant qu'il est homme, prie aussi son Père. Et on voit Jésus-Christ à Gethsémani qui prie, non ? On voit Jésus-Christ qui nous donne le Notre Père. Et Jésus-Christ, c'est le priant par excellence. Et Jésus-Christ, le priant par excellence, va nous éduquer nous aussi et nous faire entrer dans la prière. Quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosterneront. Et donc, on est tous à la suite de Jésus-Christ, on entre dans cette adoration, dans cette relation avec Dieu, et on se met tous à l'école de la prière de Jésus pour pouvoir nous aussi prier Dieu, mais comme Jésus-Christ a prié Dieu pendant qu'il était sur terre. Alors, si on avait le temps, hein, ce serait bien de... Apocalypse 4, c'est, on voit la première prière. Vous aurez une autre prière dans Apocalypse chapitre 5. Vous aurez une autre prière dans Apocalypse chapitre 7. Vous aurez 7 prières différentes, hein, dans l'Apocalypse. Et à chaque fois, là, on a l'impression que c'est une prière qui est liée à Apocalypse chapitre 4. Le Dieu, en tant qu'il fait alliance avec les hommes, c'est lié à la création de l'homme. Et dans Apocalypse chapitre 5, c'est une prière qui va être liée déjà au salut, qui sera un peu plus grande ou plus profonde qu'uniquement cette prière d'adoration d'Apocalypse 4. Et ceux qui sont intéressés par la prière, la louange, ce serait intéressant d'essayer d'étudier les 7 moments de prière de l'Apocalypse pour voir comment le Christ va nous introduire dans une prière de plus en plus intime, toujours avec Dieu. Maintenant, je termine avec notre mère de cristal. Parce que on avait vu, n'est-ce pas, qu'il y avait le Père qui est assis sur le trône, l'arc-en-ciel qui fait alliance, hein, avec les 24 anciens qui sont les 12 tribus d'Israël. Ensuite, on a vu l'Esprit-Saint qui est présent. Et l'Esprit-Saint qui est présent dans cette vision que Saint Jean a à travers la porte ouverte, fait qu'après l'Esprit-Saint, on va passer par la mère de cristal pour permettre au Christ d'apparaître à travers les quatre vivants dans son mystère d'incarnation. Donc, pour se comprendre d'une manière claire, l'Esprit-Saint passe par la mer de cristal pour qu'à travers la mer de cristal, le Christ vienne dans son mystère d'incarnation. Eh bien moi, pensez ce que vous voulez, je pense forcément immédiatement au mystère de l'Annonciation. Et l'Annonciation, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit-Saint qui vient et qui va permettre à Jésus-Christ de venir sur terre, de s'incarner. Et pour que l'Esprit-Saint puisse permettre à Jésus-Christ de s'incarner, il est passé par Marie. Et la mère de cristal, pour moi, elle est présente ici comme étant cette femme qui a été prévue dans le plan de Dieu. Elle est bénie entre toutes les femmes. Depuis toujours, Dieu a voulu que son Fils vienne sauver les hommes sur terre. Et ce salut nous est proposé, hein, à travers cette prédilection, cette prédestination que Dieu a voulu à travers cette femme unique, parce que Marie est une femme unique. C'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup le temps d'en parler, mais il faut rappeler à tous ceux qui ont du mal à comprendre notre dévotion mariale. Moi, j'ai entendu souvent des gens me dire « Mon père, la Bible ne parle pas beaucoup de Marie. » C'est un argument qui est complètement faux. La Bible ne parle pas beaucoup de certains apôtres. Je suis même sûr que parmi ceux qui m'écoutent, il y a même des gens qui sont incapables de me dire quels sont certains apôtres de Jésus. On connaît un peu Pierre, on connaît un peu Jean, on connaît un peu Jacques, on connaît un peu Judas, Barthélemy, Nathanaël, Philippe, Thomas, on en parle un peu. Après, il y a un petit Jude là ou Thaddée, on ne sait même pas trop qui c'est. Il y a des apôtres dont on ne parle pas dans les Écritures. On connaît uniquement leur nom parce qu'on donne la liste des 12. Et si on me dit qu'on ne parle pas de ces apôtres, là, je suis d'accord. Même Philippe, même Thomas. Qu'est-ce qu'on dit sur Philippe et Thomas? Il a posé une question dans Jean 14 pour Philippe, et pour Thomas, il a douté à un moment, donc ça a permis quand même qu'il y ait une résurrection ou mettez doigt dans mon côté. Mais Marie est présente dès le début. Hein, elle est présente avec Joseph. Joseph qui répudie Marie. Ensuite, il y a l'Annonciation. Ensuite, il y a la Visitation. Ensuite, il y a le mystère de Noël. Ensuite, il y a Jésus-Christ au temple. Ensuite, il y a son départ en Égypte. Il y a les noces de Cana où elle est présente. À la croix, elle est encore là. Ensuite, elle est présente même dans les Actes des Apôtres où elle prie. Et Marie est partout présente. Et les versets sur Marie sont des versets qui sont très puissants. Je vous en cite simplement trois. Marie est bénie entre toutes les femmes. Ça veut dire que parmi toutes les femmes de la terre, déjà, Marie a une place privilégiée. Donc c'est déjà énorme. Toutes les générations me diront bienheureuse. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous devons aussi être capables de dire Marie bienheureuse. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est biblique. Et à la croix, Jean 19, 27, Jésus-Christ qui dit à Jean, voici ta mère. Et Marie est ma mère. Moi, j'ai deux mères. J'ai ma mère qui m'a mis au monde, qui s'appelle Renée, la femme de mon père, qui est Paul. Et qui m'a accouché et qui m'a donné la vie humaine. Et j'ai mon autre mère qui est Marie, qui est la mère que Jésus-Christ m'a donnée. Et Marie est une mère qui est plus parfaite que ma mère charnelle. Je sais que même elle est d'accord puisqu'elle est très chrétienne, donc il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que cette femme, eh bien, je crois qu'on peut dire qu'on la retrouve ici. Sinon, je ne vois pas comment on peut interpréter cette mère de cristal. On a l'Esprit Saint qui est présent. Après l'Esprit Saint, la mère de cristal, et après être passé par la mère de cristal, le Christ apparaît dans son mystère d'incarnation. C'est l'Esprit Saint qui descend sur Marie le jour de l'Annonciation pour permettre à Marie de pouvoir accoucher Jésus et voir ce Jésus-Christ qui va apparaître à Bethléem. À Bethléem, Jésus-Christ va apparaître et il aura aussi ses quatre dimensions. Vous voyez, quand les mages viennent rencontrer Jésus, les mages vont venir apporter de l'or, de la myrrhe et de l'encens. La myrrhe, c'est lié au sacrifice, le taureau. L'or, c'est lié au roi. L'encens, c'est lié à l'aigle. Et ces trois qui sont venus pour, on voit la présence du taureau, on voit la présence de l'aigle, on voit la présence du lion à travers l'or. Et Jésus qui est là, physiquement présent, c'est le visage d'homme. Et on voit en Jésus-Christ à Bethléem ces quatre dimensions du Christ dans son mystère dès qu'il est né. Donc moi je crois que dans Apocalypse chapitre 4, on voit le Père qui fait alliance avec les 24 anciens, l'Esprit Saint qui est présent, la mère de cristal Marie et le Christ qui apparaît dans son mystère d'incarnation et le Christ qui va nous introduire dans une prière envers son Père parce que s'il est venu, c'est pour que nous puissions être toujours davantage unis au Père. On se retrouve peut-être une nouvelle fois dans quelques jours. En tout cas, c'est une joie pour moi. Je remercie la radio de me permettre de vous parler de ce livre de l'Apocalypse. Et j'espère que chacun d'entre nous pourra entrer toujours davantage et que l'Esprit Saint va nous éclairer pour qu'on puisse mieux comprendre ces paroles de vérité qui nous sont données à travers cette révélation de Jésus-Christ. Bye bye.